Kick up, bump the sound. Get the micro, you know how we do on the joint, The Walking Web. Ok, donc bonjour tout le monde, bienvenue pour le 28e numéro de The Walking Web. Donc aujourd'hui c'est moi qui m'y colle et aujourd'hui on va parler avec monsieur Mr Cup, Fabien Barral, qui est à l'origine de pas mal de projets assez print, en plus de son blog qui est déjà connu et des choses comme ça, donc on aura l'occasion avec lui de parler de tout ça. On a déjà parlé d'ailleurs de certains de ses projets parmi nous, donc on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Fabien. On a après toute l'équipe de The Walking Web qui est là, donc notre ami Jojo, Geoffrey Dorn.
Salut.
Tony.
Hello.
JP.
Salut.
Et Jérémy.
Hello tout le monde.
Donc comme je disais juste avant, on a notre invité qui est Fabien Barral. Donc, je vais te demander, Fabien, un peu de te présenter pour commencer, pour que les gens qui ne te connaissent pas apprennent un peu à mieux te connaître, et puis de nous parler rapidement de tes projets, sachant qu'on va les aborder tout à l'heure dans le gros sujet. Donc, okay. Dis à toi, Fabien, qui es-tu, que fais-tu et d'où viens-tu?
Et dans quelle étagère? Pour faire la version, on va faire une version assez courte. Donc, je suis graphiste depuis une quinzaine d'années. J'ai fait le parcours classique de directeur artistique dans une agence avec des clients très corporate, tels que McDo, Michelin ou des choses comme ça. Ce qui m'a un peu refroidi au bout d'un moment parce que c'était, voilà, comme on a un peu du mal à s'exprimer parfois. J'ai commencé à être contacté par des agences américaines suite au début du blog Graphic Exchange que j'ai lancé il y a 10 ans cette année. Donc ça fait déjà 10 ans que je mets à jour ce site régulièrement pour présenter tout ce que j'aime bien, et ça m'a amené pas mal de clients extérieurs américains en particulier. Donc après j'ai fait pas mal de choses. Étant donné que j'avais un site qui était assez connu, j'ai lancé un shop pour vendre des stickers décoratifs. Et je suis toujours en recherche en fait de projets comme ça, et j'ai commencé à m'intéresser au letterpress, à l'impression letterpress. De la même façon, j'ai commencé à chercher des imprimeurs qui faisaient ça. Au début, c'était les Américains. Je travaillais avec Studio On Fire, et après, j'ai très vite travaillé avec un imprimeur polonais avec qui on a lancé le premier calendrier letterpress en 2010 pour l'édition 2011, que j'ai vendu sur mon site. Voilà, à l'époque, on n'avait pas de Kickstarter ou quoi que ce soit. Ça a bien marché, donc j'ai continué l'année d'après à en faire un, et puis j'avais encore envie de renouveau, donc j'ai tout mis, toutes mes affaires dans un box, et je suis parti vivre un an à Bali, en Indonésie. Je suis passé quelques temps à Singapour, en Thaïlande, donc j'ai continué à faire mon boulot de graphiste freelance, mais de là-bas. Et là-bas, j'ai travaillé avec des artisans locaux pour faire des lettres en bois, des projets, des sous-bocs en bois. J'essayais toujours à chaque fois de trouver l'artisan qui a un savoir-faire, et moi, comment appliquer le graphisme et ma discipline avec ce savoir-faire-là, ce qui était vraiment intéressant. Après, je suis rentré, j'ai continué le calendrier, et cette année, je viens de lancer donc le magazine Walter avec l'agence où j'étais directeur artistique à mes débuts, donc la boucle est bouclée, et on a lancé ça donc l'an dernier. Et en parallèle avec ma femme, je travaille sur un magazine de sans gluten qui n'a absolument rien à voir donc avec le graphisme, mais qui est vraiment un projet parallèle qui marche beaucoup en ce moment. On en est au 9e numéro, on fait tout nous-mêmes et ça marche bien, et on l'a financé avec des financements participatifs. Donc voilà, la version courte, parce que sinon...
on va en parler tout au fil de l'émission, donc hyper sympa, parce que tu as un profil qui est déjà avec pas mal d'expérience, avec pas mal d'aventures différentes, ici ou là, dans différents pays, donc ça va être plutôt pas mal intéressant. Donc je vous invite, on va commencer tout d'abord avec les news. Donc notre ami Tony a quelques petites news dont il voudrait nous parler, donc je te donne la parole, Tony.
Ouais, en plus aujourd'hui je vais renvoyer la balle à chaque fois, parce que là par exemple je vais vous présenter un truc, mais rapidement je vais renvoyer ça à Jérém qui va se démerder, et j'ai une autre news pareille où c'est JP qui va se démerder, et je vais moi par contre essayer un truc de fou, c'est que je vais essayer de partager mon écran. Alors vous allez voir, c'est une nouvelle idée, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc là, est-ce que par exemple vous voyez ce que je suis en train de vous montrer à l'écran?
Oui.
Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est sur ça, Jérém, qu'il va falloir te démerder, puisque c'est le nouveau rebrand de Uber. Je pense que vous l'avez tous vu passer. Et moi, je ne vais pas vous parler en détail vraiment du rebranding en lui-même. Par contre, c'est le petit site que j'ai trouvé super stylé. Vous savez, il y a un peu, j'ai l'impression qu'il réunit un peu toutes les tendances du moment avec, j'aime bien ce délire là des grids qui restent visibles avec des petits filets gris très transparents. Et je trouve que c'est cool d'aller caler tous ces typos, etc. dessus. Je trouve qu'il y a la ligne visible, il y a un vrai truc vachement intéressant. Après, j'aime bien aussi l'idée de la vidéo verticale et puis les petits boutons qui flottent comme ça, ça bouge pas trop non plus. Et alors là, je vais même essayer de scroller dans la page, vous allez me dire si ça marche, voilà. Et toutes les illus et tout, c'est assez cool. Finalement, moi, j'arrive presque à aimer plus le questudisme, hein, parce qu'on en parlait l'autre fois, que le rebranding en lui-même. Et voilà, allez voir ça, parce que je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et je crois, Jérém, que toi, tu voulais nous parler plus de la vidéo, parce que j'avoue qu'il y a une vidéo qui envoie pas mal. Et peut-être que tu voulais plus parler du rebranding en lui-même. Donc, Jérém, c'est à toi.
Le rebranding, il est relativement simple, comme ça se fait de plus en plus. En fait, ils ont simplifié la typo. Et je vous invite à aller voir le site et puis les quelques vidéos. Il y a des petites vidéos de 15-30 secondes qui montrent un petit peu ça. Et on voit donc la simplification de la typo où ils ont enlevé quelques courbes, ils ont coupé quelques jambes et compagnie. Et le logo est très simple, mais il reste sur la métaphore du carré. Et en fait, ils ont essayé d'amener toute une stratégie de mélanger les bits, les pixels et le monde physique et donc en fait symboliser. C'est pour ça que le logo de l'application change, c'est un petit carré avec une sorte de traînée qui représente un pixel ou alors ça peut représenter la voiture et son parcours. Et je trouve le logo intéressant, même s'il y a pas mal de monde qui a l'air de pas aimer les nouvelles icônes. Moi, je trouve au contraire que c'est intéressant et ça me fait penser un peu à, pour les vieux, au film Tron, par exemple, et aux personnages qui bougeaient dans le jeu vidéo et les traînées des motos comme ça. Et ça ancre, en fait, Uber dans son nouveau modèle économique qui est au-delà, parce que voilà, Uber, c'est pas des taxis pas chers et super cool et facile à trouver. C'est vraiment un modèle économique qui est beaucoup plus large que ça. Ils vont faire dans la livraison, ils font dans plein de choses, et puis leur modèle final, c'est tout simplement les voitures qui se conduisent toutes seules. Et en fait, ce nouveau rebranding les ancre bien dans ce nouveau modèle, dans la mise en valeur aussi des villes, ce qu'avait déjà fait Airbnb. Bon, ça, c'est le côté un petit peu washing de leur image pour essayer d'être mieux perçu. Mais pour revenir sur le site est vraiment très bien fait. C'est une page avec quelques pop-ins.
Alors, attends, est-ce que là, par exemple, on voit l'écran et quand tu continues à parler, on continue à voir l'écran?
Je pense que si je parle, non, l'écran disparaît malheureusement.
Ouais, donc ça c'est très chiant. J'essaierai, promis, dans un prochain épisode de régler le problème. Mais là on voit en tout cas ce que tu parlais, là, l'histoire des couleurs liées aux villes. Et je trouve ça super intéressant aussi comme approche dans le rebranding. Et comme tu disais, la petite vidéo qui montre par des petits motions et des. Elle est super bien foutue. C'est vraiment très intéressant, qu'est-ce que tu dis.
Ouais, j'ai une question pour Jérém et puis pour vous tous d'ailleurs. Sur le logo en lui-même, alors c'est vrai que le case study est super, les couleurs, c'est un bon exemple de ce qu'il faut, ce qu'on peut faire en tout cas. Leur loader aussi sur le site avec la petite voiture qui accélère et qui décélère, c'est assez classe. Mais par contre, ça a beaucoup soulevé de questions, genre le logo, je le comprends pas. Je comprends pas sa forme, etc. Et moi non plus, tu vois, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, ça ressemble un peu à l'ancien, c'est différent, mais je comprends pas ce qu'il signifie vraiment, même si on connaît un peu Uber. Et ça m'a posé la question de, est-ce qu'il faut comprendre un logo, le concept d'un logo en voyant sa forme, ou est-ce que ça peut être totalement abstrait? Et puis, enfin, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, si la question est claire.
Par le logo, tu t'entends quoi? Juste le nom Uber ou alors l'icône de l'app?
Non, juste l'icône. Hein. Quand je parle du logo, c'est vraiment juste les petites icônes qui sont sorties, l'icône de l'app hein, qui a surpris tout le monde.
Bah, je pense que chacun peut y voir plein de choses. C'est vrai qu'au début, on a l'impression que c'est un peu un C à l'envers parce qu'il y a un espace négatif en fait. Mais moi, c'est cette idée du pixel et puis représenter tout simplement sur un itinéraire la voiture qui avance. Moi, j'ai pensé à ça. Voilà.
Moi, pour les vieux de la vieille, ça m'a fait penser la première fois que je l'ai vu aux puces qu'il y avait sur le quart de téléphone.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
C'est un peu le but, hein. Il y a un peu le but là, cette idée de bits dont tu parlais toi, Jérém. C'est un peu ça, je crois. Hein.
Ouais, je sais pas ça.
Mais sachant qu'il y a un truc aussi qui a peut-être joué dans la réaction de certaines personnes, c'est l'investissement ou l'implication qu'a eu le CEO de la boîte dans la création du picto, enfin de l'icône, sachant qu'ils ont préféré, si je me trompe pas, faire tout en interne et que lui soit complètement investi dans le projet, en disant que c'était quelque chose qui était super important pour la boîte, donc lui devait y être impliqué. Et ça a suscité des réponses positives à gauche à droite, d'après ce que j'ai vu, mais aussi beaucoup de réponses négatives en disant c'est pas son job, il devrait laisser ce genre de choses à des professionnels, quoi.
Oui, d'ailleurs, regardez sur là, putain, du coup, j'en profite à mort, hein, de montrer l'écran. Je vous invite à aller voir cet article là qui est sur Wired, où il y a, on voit justement l'intérieur de tout le rebranding là, et il y a tout un tas de choses, il y a pas mal d'explications, etc. Et voilà, pareil, très intéressant, quoi. Du coup, on a fait une news d'une demi-heure, c'est pas mal.
Non, mais juste pour finir là-dessus, c'est que moi je trouve intéressant qu'ils aient travaillé leur logo comme une icône d'iPhone, parce que c'est vraiment comme ça qu'on l'utilise, et pas uniquement en fait un U sur le U de Uber, qui était quand même un peu classique. Moi je préfère le côté symbolique où plein de gens voient plein de choses différentes suivant leur utilisation, et en particulier les non-graphistes, parce que quand même, on va dire qu'il y a 90% des gens qui utilisent Uber qui ne sont pas des graphistes et qui ne vont pas décortiquer le branding et savoir pourquoi, comment, qui vont juste voir l'icône et savoir si ça marche ou pas, quoi.
D'ailleurs, c'est de plus en plus demandé de la part de certains clients de faire leur logo, leurs icônes au format carré pour que ça puisse rentrer dans l'iPhone, dans les réseaux sociaux, etc. C'est un peu bizarre.
Ouais, on va tous se retrouver avec des logos carrés, ça va être un vrai bonheur.
Plus en plus, hein,
ça aurait un peu de synergie sur un écran Android où les icônes sont possibles et inimaginables.
C'est vrai.
C'était un petit troll en passant. Tony, tu veux parler? Il y a d'autres choses qui sont importantes dont tu voudrais parler ou...
Attends, je regarde dans toute la liste que j'ai fait. Je voulais, ouais, bah juste.
Du coup, écran, par contre.
On voit mon écran, effectivement. Tac, ouais. Là, on voit mon écran. Là, je suis plus habitué, moi, du coup. Ouais, par exemple, la petite vidéo Microsoft, vous avez tous vu passer. Il y a le Super Bowl qui arrive là ce week-end. Je pense que vous en foutez plus ou moins tous. Mais il y a plein, ils font la NFL, fait toujours plein de choses liées aux nouvelles technologies. Et là, c'est une vidéo de l'HoloLens qui montre un peu ce que ça pourrait donner le sport, le visionnage du sport à la maison dans quelques années. Vous savez que l'HoloLens, c'est la réalité augmentée. On en reparlera encore là. Cette fois, c'est sûr, ça sera le prochain épisode avec Redsan. La réalité augmentée, vous savez que ça vous permet de voir la réalité comme les Google Glass, et que ça vient ajouter du digital par-dessus. Et du coup, alors je vais tenter d'envoyer la vidéo, ça j'y crois peu quand même, que vous allez visionner. On voit bien ou... Ouais, ça passe. Donc là, on voit en fait là, à travers notre casque, des éléments qui viennent se rajouter par-dessus. Donc ce qui est vachement intéressant, vous voyez que là, on voit par exemple la continuité de l'écran qui vient s'ajouter. Et on va pouvoir aller ajouter par exemple des statistiques en live des joueurs. On va pouvoir visualiser à un moment, par exemple, des actions spécifiques, voir l'équipe. Enfin voilà, tout un tas de données supplémentaires qui viennent s'ajouter à l'expérience. Vous voyez là, il y a une petite démonstration ici. Alors ça a l'air très beau, c'est toujours un peu le problème dans ces trucs qui font un peu fake, tellement, tellement c'est beau. Là, par contre, ce que je trouve vraiment pas mal dans cette vidéo, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, je vais essayer de vous le remonter au début, c'est la première fois, je crois, que, vous voyez, on a vu, je vais essayer de le caler, en fait, quand on est dans la vision du casque, voilà, là, on voit bien le cadre du casque. Et ça, c'est la première fois, j'ai l'impression qu'il le montre, parce qu'en fait, dans l'HoloLens, vous allez vraiment être bloqué sur un certain nombre de pixels dans votre vision. Et c'est la première fois, je crois, qu'il montre vraiment une vidéo qui montre ça en conditions réelles. Donc, voilà. Enfin, allez voir cette vidéo parce que...
Ça veut dire quoi, qu'il n'y a pas la même immersion que dans un casque...
Non, la différence avec effectivement la réalité virtuelle, c'est que tu vas être plongé, t'as vraiment ta vision, toi, de tout ce que tu vois autour, et les éléments viennent s'ajouter à ce que tu vois. Et c'est un peu la critique qu'on avait sur l'HoloLens, c'est que le fait que tu vois que l'écran ne prend pas l'ensemble de ta vision, ça enlève un peu ce côté, justement, immersif, quoi. Mais bon, moi, en fait, ce qui m'intéresse vraiment dans ces vidéos-là, c'est plus de dire aux designers, les gars, faut vraiment vous préparer à créer des interfaces, parce qu'on a vu qu'il y a énormément de choses qui peuvent être ajoutés. Donc faut vraiment se dire qu'en tant que designer et les expériences utilisateurs et même les UI designers, il va falloir le créer, quoi. Donc il y a vraiment un énorme boulot qui va apparaître dans les quelques années à venir. Et voilà, donc petite vidéo Microsoft à aller voir, et je pense qu'avec Redsan on en parlera bien plus concrètement, quoi.
Ok. Tu veux parler des voxels sur Abduzeno de Sir Karma ou...
Ah oui, du coup, c'est que mes news là. Allez. Hop. Bon, ça, je fais très vite, hein, parce que ça aussi, ça faisait partie des gens qu'on souhaitait inviter. Le voxel, je sais pas si vous connaissez ça, mais on connaît bien le pixel art avec, justement, par exemple, on voulait inviter dans un podcast Olivier Huard, qui serait aussi invité avec Sir Karma. Et le voxel, c'est un mélange entre, on va dire que c'est du pixel 3D. Je vais résumer ça comme ça. Et vous voyez que les créations, enfin, moi, je trouve ça juste, ça me fascine tellement. Je trouve ça magnifique. Ça me fait penser, moi, de suite au Lego. Moi, je suis un gros fan de Lego. Et du coup, là, c'était un petit clin d'œil, parce qu'Abduzido, quand même, est un gros site. Et Sir Karma, qui est français, est passé dessus. Donc, je pense que ça a été cool pour lui. Et enfin, voilà. Allez voir ses créations, parce que c'est la lumière, la gestion des ombres, les images sont vraiment de toute beauté. Et je trouve que ça serait vraiment génial qu'on l'invite un jour dans un Walking Web, parce que la technique est vraiment spécifique. Donc son site, c'est Say My Game, le nom est assez cool aussi, donc voilà, allez voir ça.
D'ailleurs, je fais une mini parenthèse sur le voxel. Il y a de plus en plus de développeurs qui se mettent à faire, je pense à notamment à Mr Doob, qui fait des plateformes en HTML avec JavaScript pour pouvoir générer soi-même son univers en voxel. Donc on peut tourner autour, on a des petits cubes, etc., comme si on pouvait dessiner en pixels volumétriques. Et il y a aussi des artistes plasticiens qui font du voxel, mais dans l'espace physique. Donc ils impriment, enfin ils réalisent des cubes, ils assemblent, et ça fait des personnages en genre de pixel art en 360 degrés, en 3D. Et il y a de plus en plus de formes que prend le voxel, et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et c'est pas tout récent non plus, mais c'est assez intéressant de voir les différentes formes que ça prend. Donc ça, c'est une belle forme aussi.
Ok, nickel. On continue donc avec d'autres news. JP, tu avais des petites questions d'orthographe.
Alors oui, donc on saute Facebook. Du coup,
saute Facebook. Ouais,
on s'en fout. Allez, on saute Facebook maintenant si tu veux.
Non, on s'en fout.
Non, Facebook, à choisir, je préfère parler effectivement de la réforme. Donc vous avez tous vu passer cette nouvelle. l'orthographe va changer sur certains mots. Alors en fait, c'est l'application d'une. Ça date depuis longtemps déjà. En fait, la loi n'était pas appliquée, et donc là, ça va passer pour la rentrée prochaine. Les livres d'école vont se mettre à jour, et il y a un certain nombre de mots qui vont être orthographiés de manière bien différente, et ça plaît pas forcément à tout le monde sur les réseaux sociaux. Alors typiquement, dans les exemples, vous voyez le mot « oignon », qu'on va écrire sans le i, donc ça sera plus oignon, nénuphar qui s'écrit, alors on dirait vraiment un langage SMS, puisque ça sera plus ph, mais avec un f, donc nénuphar, vraiment en phonétique, et aussi les accents circonflexes, qui pour la plupart vont sauter, donc paraître, s'entraîner, le mot coup, aussi les circonflexes vont sauter. Il y a aussi d'autres mots où il y a les tirets qui vont disparaître, comme sur mille pattes, porte-monnaie, week-end. Donc ça fait partie des petites modifications qu'il va y avoir. Alors moi, je dirais que c'est... Moi, je me dis que je vais m'y habituer. Alors, ça fait toujours un peu bizarre quand on essaye, en tant que graphiste, d'éduquer un client en disant « là, ça s'écrit comme ça, tel mot, etc. etc. » Bon, là, je pense qu'il va falloir aussi s'adapter à ça. Je n'ai pas forcément d'avis négatif là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres. Mais c'est juste, on est une langue vivante, donc qui dit vivante dit que les mots changent aussi, et ça me semble normal d'évoluer aussi avec les évolutions de la société et de l'époque. Sachant que ces évolutions-là, sont pas forcément liées aux nouvelles formes d'écriture via les réseaux sociaux, Internet, SMS et compagnie.
Ok.
Je pense que c'est intéressant.
Quelque chose à rajouter sur...
C'est Fabien,
ouais.
Je crois qu'il
voulait. Ouais. Moi, je pense que c'est intéressant, parce que du coup, on pourra justifier des erreurs et des coquilles comme ça, en disant qu'on croyait que c'était la nouvelle nomenclature. C'est pour ça qu'on n'a pas mis le tiret et qu'on a
Exactement.
Après, ouais. Il y a quand même un truc aussi, c'est que moi aujourd'hui, je pense que les graphistes, les professionnels qui travaillent avec la typographie font partie des métiers qui sont un peu garants de la bonne écriture, de la bonne syntaxe, de la bonne manière d'écrire aussi le français. Je vois énormément de fautes qui peuvent être faites sur des textes un peu partout. Et pour moi, c'est quand même très important de bien écrire comme il faut. Et souvent, il n'est pas rare que je fais découvrir aussi certaines façons d'écrire, notamment dans les abréviations, le deuxième, troisième, où souvent on voit la faute, que c'est mal écrit avec EME, alors que c'est pas comme ça que c'est écrit. Et plein d'autres termes aussi. Donc il me semble important que, voilà, pour les designers graphiques, qu'on puisse bien s'informer sur ce type de réforme, parce qu'il me semble qu'on est là aussi pour véhiculer la bonne façon d'écrire la langue.
Et pour ajouter un truc là-dessus aussi, il y a par exemple le E dans l'eau, qui est utilisé dans œuf ou œil, qu'on est les seuls à utiliser. Dans certaines, voilà, qui sont galères en fait à mettre. Je voulais l'exemple type, c'est quand tu fais un magazine de cuisine et que chaque fois tu es obligé de te taper les glyphes pour le œuf. voilà, au bout d'un moment, celui-là, tu te dis, on pourrait peut-être l'écrire avec le O et le E séparés.
Alt O pour ceux qui veulent écrire le caractère au passage.
Voilà, c'est ça, tu es un peu pénible. Et juste pour la petite histoire aussi, vous savez qu'on est la seule langue à avoir un accent sur le U et donc avoir un clavier avec un U avec un accent et qui ne sert à un seul mot, c'est le OU. Ils ne servent qu'à un seul mot. On a une touche pour un seul mot en fait de la langue française.
C'est classe. On aura bientôt un clavier français, ce sera encore mieux.
Ouais, voilà.
Mais c'est intéressant parce que ça rejoint un débat qu'on avait eu il y a quelques temps sur justement l'écriture à l'école qui change, où les enfants apprennent de plus en plus à écrire avec les caractères informatiques et de moins en moins les scripts. La manière d'écrire évolue, les mots évoluent aussi, donc c'est pas mal de choses changent, quoi.
Ouais, en vrai, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi dès que je travaille sur du print, tu fais attention à tous ces trucs, mais alors vraiment tu vas aller relire 36 fois ce que tu as écrit, est-ce que tu as pas oublié justement le E dans le O, est-ce que tu as pas les accents, et je trouve que sur le web, il y a ce truc quand tu écris sur un blog, tu parlais de troisième, je prends cet exemple, mais moi quand j'écris vite, c'est vraiment je mets le EME, chose que je ferais jamais en print. Donc c'est effectivement, ça rejoint ce que tu dis Francis, je pense que avec le web, il y a clairement ce truc là et le langage SMS quelque part. Enfin, moi, je trouve ça couillu quand même, hein, que ça soit que ça passe comme ça niveau. C'est quand même des mecs qui, je pense, défendent à la base vraiment la langue française et l'écriture, et ça vient d'eux. Donc, je trouve que c'est assez couillu quand même d'aller.
Mais la langue à travers le temps et les siècles a aussi pas mal évolué. Les mots ont évolué aussi dans leur. Quand tu regardes le nom, les noms, rien que sur les noms des gens, les noms, il y a des noms de famille qui ont changé, qui voulaient dire quelque chose au départ et qui évoluent au fil du temps. Les mots de la langue française, c'est pareil.
Cabaroc, ça veut dire quelque chose ou pas? Je me suis toujours demandé.
Moi aussi.
Voilà.
Et c'est pareil aussi pour l'accent circonflexe. À la base, en fait, ce sont les mots en fait où on a remplacé un S en mettant un accent sur l'angle circonflexe, sur la voyelle qu'il y avait avant. Comme par exemple Benoît, on écrit avec un accent circonflexe, ou avant c'était Benoist avec un ST en fait. Donc ça a déjà été une évolution il y a 150 ans en fait.
Comme hôtel, tous les aussi, mecs qui s'appellent Thibaut par exemple, ça devrait tous s'écrire pareil quoi. Pas de ouais. D, pas de T, pas de
TIBO. C'est vrai que c'est très chiant ça.
Les Mathieu avec le T ou
TIBO, c'est tellement plus simple quand même. TIBO.
Très bien avec le chiffre 20 à la fin, c'est plus facile.
Ouais. Ok, voilà. On avance.
Mais 30 minutes de news, c'est bon, je crois qu'on est bien là. Hein. C'est nickel.
Donc, pas de Facebook, JP?
Non, on va avancer.
On avance. Nous, on avait une petite news avec Jojo, on a discuté de ça hier soir. Alors, je sais pas si Jojo, tu peux en parler ou si on avance sur l'article.
On peut le faire assez rapidement. C'est passé sur Twitter, j'ai eu pas mal de gens râler envers l'Institut national des métiers d'art, qui est un institut national qui mélange le ministère de l'économie, de l'industrie du numérique, et puis aussi de la culture et de la communication, et aussi le commerce. Donc c'est à la branche de trois ministères. Et ils ont sorti récemment une nouvelle publication qui est la liste des métiers d'art de 2016. Ça s'appelle la liste des métiers d'art, et en gros, dedans, il y a un morceau, et c'est écrit « Certains métiers ne sont plus en adéquation avec la définition d'un métier d'art, tel que défini par la loi, blablabla, ça a été supprimé. Exemple, les métiers de graphiste et infographiste entièrement numériques ne répondent pas aux critères de travail de la matière qui définit un métier d'art. » Donc évidemment, ça a fait râler tous les graphistes et infographistes, et pas que d'ailleurs, sur le fait que si tu travailles pas la matière, donc, qu'est-ce que ça veut dire la matière? Est-ce que des pixels c'est de la matière ou pas? C'est pas un métier d'art. Et aussi, d'autant plus que les métiers de graphiste et d'infographiste, ça sous-entend qu'ils sont entièrement numériques. Alors qu'évidemment, vous savez bien qu'on a du papier, des crayons, un cerveau, de la peinture, des photos, d'autres trucs. Et aussi qu'il y a beaucoup de métiers d'art qui sont dans la liste. Je pense à la métallurgie, à la fabrication du cuir, à la broderie, etc., qui utilisent de plus en plus des outils numériques. Bref, ça a fait un peu râler les gens en disant « Ouais, les graphistes sont pas reconnus. » En tout cas par cette liste des métiers d'art. Et j'aimerais juste rajouter ce petit point après avoir cherché un petit peu, m'être renseigné, c'est qu'il y a une différence entre les artistes auteurs qui sont qui rentrent dans les graphistes rentrent dans cette catégorie on va dire professionnelle dans la liste du référentiel des métiers, et aussi ce qui s'appelle les métiers les maîtres d'art, les gens qui sont maîtres d'art, donc qui se rapprochent beaucoup plus de l'artisanat. Et donc c'est pas le même référentiel, c'est pas les mêmes façons aussi de voir le travail. En gros, ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a pour moi, ce que ça soulève surtout ce débat, c'est que il y a un gros mélange entre les différents types de métiers. Qu'est-ce que c'est qu'un métier artistique ou pas? Quand on est graphiste, on peut faire un métier artistique sans aucun problème, mais c'est pas que ça. Le design, c'est pas un métier d'art par définition, c'est du design graphique en l'occurrence quand on est graphiste. Et ensuite, ça soulève aussi la question de l'intégration du numérique. C'est pas parce qu'on touche un ordinateur que c'est pas de l'art ou qu'on n'est pas un artisan. Ça, moi, je trouve ça très idiot de conclure sur le fait de dire que du fait que c'est numérique, évidemment. C'est pas de l'artisanat, c'est pas un métier d'art, quoi.
Mais je crois qu'il y a confusion, parce que le terme de métier d'art, c'est vraiment bien défini, c'est-à-dire, comme tu le disais, ça se rapproche de l'artisanat, les potiers, les gens qui vont travailler le métal, la sculpture ou ces choses-là. Personnellement, je me reconnais pas du tout dans ce type de métier, et puis le graphisme, ça a jamais été un travail qui est dans la définition de l'artisanat. Après, de dire qu'on fait un travail créatif artistique qui utilise on va dire des compétences artistiques, ça oui, mais de là à dire qu'on est un métier d'art, quelque part je sais même pas, enfin si le graphisme était dans la liste, pour moi c'était limite une erreur, et c'est plutôt une bonne chose qu'on n'y soit pas. Donc
Francis c'est un bon exemple, je pense, parce que justement il est à la croisée de ça, il fait du lettering, mais après il va scanner, vectoriser, et puis après il va refaire en bois ou je ne sais quoi ce qu'il a vectorisé.
Le dessinateur de caractère, moi, se rapproche, effectivement, moi je le mettrais dans la liste, parce qu'il y a un travail, effectivement. C'est pas simplement parce que c'est de la matière, mais c'est parce qu'on n'est pas forcément dans une démarche qui est la même. Pour moi, on est dans une démarche technique aussi, artistique, qui se rapproche vraiment, pour moi, là, de l'art. Il y a une démarche artistique qu'on n'a pas forcément.
En vrai, je trouve qu'il y a un vrai problème de nom, non ? Il y a une grosse différence entre art et artisan. C'est surtout sur ça, moi, que ça me gêne un peu, parce que déjà, le truc de l'art, pour moi, je vois ça. Enfin, il y a un truc tout bête, mais à partir du moment où tu crées un logo, par exemple, pour une entreprise qui va vendre des services quelque part, qui soit fait en bois, qui soit fait en lettering, qui soit fait sur ordinateur, tu fais quelque chose pour un client, et quelque part, il y a un peu de marketing là-dedans. Donc, rien que pour ça, moi, ça c'est différent de l'art là-dessus.
Il y a du marketing dans l'art aussi. Hein.
Là, je pense qu'on
l'art,
se mettra
de l'expression de soi-même. Hein.
Ouais, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'on on se mettra jamais d'accord.
Et on pourra jamais... Le problème, il vient. Et ça, bon, moi je suis en plein dedans en ce moment, et c'est super dur à gérer, ne serait-ce qu'avec les collègues. Parce que là, où je bosse, donc dans une résidence où il y a une cité des métiers d'art, tu as à la fois des artisans et des graphistes. Et des artisans et des gens qui travaillent dans les arts graphiques. Et les arts graphiques font partie des métiers d'art au même titre que moi, j'ai des couteliers, des pipiers, des menuisiers, des choses comme ça. Et quand on fait des réunions, c'est un peu compliqué, parce qu'il y en a, ils disent oui, mais nous, les artisans, voulant dire qu'il y a des artisans et puis il y a des graphistes. Et les graphistes, c'est pas vraiment des artisans. Donc, même dans la profession, ça prête à discuter. Le seul truc, moi, qui m'emmerde dans le fait de vouloir virer certains. certains métiers, c'est de dire bah, ces métiers n'existent plus d'une certaine manière, tout est fait au niveau numérique maintenant. Ce qui est faux parce que si je prends juste le cas de la sérigraphie, c'est un art graphique, c'est un graphiste généralement qui va se faire chier à faire le design de la sérigraphie, qui va le scanner, qui va après le mettre sur un écran et qui va l'imprimer et ainsi de suite. C'est un métier, ça peut être vu comme un métier d'artisanat dans le sens où il travaille la matière, où il produit quelque chose au même titre qu'un menuisier va travailler le bois, bah lui il imprime sur du papier ou il imprime sur un t-shirt ou il fait chose et d'autre. Mais c'est un peu ambigu. Il y a aussi la définition entre le design et l'art et tout ça. Mais moi la seule chose qui m'embête, et je dirais que ça, c'est juste qu'on vire il vire plein de métiers en disant que maintenant tout se fait à l'ordinateur. Alors que je trouve qu'il y a une dynamique qui va à l'opposé dans le sens où dire bah il y a quand même des gens qui essayent de préserver tous ces vieux métiers. C'est pareil, un mec qui crée des caractères en plomb et des choses comme ça, il y en a peut-être, il paraît qu'il y en a plus que deux d'après ce que j'ai lu sur le post de Geoffrey sur Facebook, il y en a plus que deux en France. Donc on le vire, hop, c'est disparu. Tous ces gens-là, ben ils n'existent plus ou ils sont sur le point de disparaître. Donc on les vire, ils font plus partie des métiers d'art. Donc ça, c'est complètement farfelu. Et la dernière chose, c'est que là, je vais participer au GEMA, qui sont les journées européennes des métiers d'art. Et le graphisme ben, fait partie des métiers d'art. Donc d'un côté, on dit que le graphiste n'en fait plus partie, mais quand on organise des journées portes ouvertes de ces métiers, ben, le graphiste en fait partie. Donc c'est un
après,
peu...
C'est toujours le truc très français de toujours tout classer. Il faut que tu classes les gens là, et puis s'ils sont là, non. Je m'entends dans le truc, c'est normal.
Moi, j'ai pas.
Bon, de toute façon, on va laisser Fabien, tu voulais intervenir là-dessus, mais c'est vrai que ce truc de classer tout le monde, c'est n'importe quoi.
Le truc, c'est que la définition d'un artisan, c'est quelqu'un qui fait, à la différence d'un industriel, c'est quelqu'un qui fait tout, en fait, du début de l'idée à la création de cette idée-là, à la fabrication de cette idée-là. Je m'entends aussi en réverb, du coup.
Non, ça y est, c'est bon.
À la fabrication de cette idée-là, à la commercialisation de ce projet-là. Donc, dans ce cas-là, oui, je pense que les graphistes qui font leur propre projet, qui font leur propre poster, leur lettre, leur calendrier, tout ce que vous voulez, on rentre dans l'artisanat. Et à la fois, il y a aussi des graphistes industriels qui peuvent produire un poster ou quoi que ce soit qui va être fabriqué à des milliers d'exemplaires. Donc, c'est juste une question de nomenclature et de machin et qu'il faut le mettre dans une case. Par contre, la grosse, grosse problématique de ce truc-là, c'est de dire qu'à partir du moment où c'est fait à l'ordinateur, c'est plus de l'artisanat. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'aujourd'hui, ben justement, l'ordinateur permet de faire évoluer ces artisanats. C'est l'exemple type du letterpress pour pouvoir faire une super transition. Où on prend des choses faites à la main, dessinées à la main, et on utilise des machines du début du siècle qui ne servaient pas, qui ont été faites pour imprimer avec des typons. Et des choses. Et maintenant, grâce à d'autres outils, on peut générer des plaques à partir de fichiers Illustrator. Et à partir de ça, on peut imprimer en letterpress des choses qui sont faites à l'ordinateur. Donc c'est dommage.
C'est une parfaite transition, j'ai l'impression, pour passer au gros sujet.
Justement, donc on va embarquer directement Fabien dans cette discussion. Donc Fabien, tu vas nous parler déjà de ton projet de calendrier. Alors, on en a un petit peu parlé en off avec Tony tout à l'heure, un peu l'histoire de ton calendrier, comment tu en es venu. Moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que tu nous parles un peu de comment tu contactes les graphistes ou les artistes avec lesquels tu veux bosser, comment tu gères ce genre de... à la fois la gestion de projet et puis le pourquoi du comment, ça peut être sympa. Moi, je vais juste aller chercher mon chargeur, parce que j'ai oublié, malheureusement.
J'ai eu très peur, là.
Ouais. Je vais juste chercher mon serveur qui est à 5 mètres. Je branche mon ordi. Et je te laisse parler, Fabien.
Vas-y, okay. Fabien.
Donc, pour refaire l'historique du calendrier en particulier, donc le blog Graphic Exchange marche depuis 10 ans maintenant. Et quand Studio on Fire, qui est un studio américain qui fait du letterpress, a vraiment commencé à poster leurs projets, etc., ça m'a passionné. Donc j'ai commencé à mettre ça en avant, et puis je me suis dit qu'il fallait que je fasse mes cartes de visite avec ça, parce que c'était super beau. Donc je les ai contactés, j'ai fait un projet avec eux. Et puis après, j'ai un imprimeur en Pologne, en fait, qui faisait du letterpress, qui m'a contacté et qui m'a dit « Moi, j'aimerais vendre le letterpress à mes clients, mais je ne sais pas trop bien... Je suis pas graphiste, voilà quoi. Je sais bien imprimer les choses, mais les créer, c'est pas trop mon truc. Donc il m'a dit, est-ce qu'on peut faire un projet ensemble? Donc il me dit, pourquoi pas un calendrier? Donc je l'avoue, l'idée de base n'était pas de moi. Et j'ai dit oui, mais un calendrier juste pour faire un calendrier Letterpress avec les dates, c'est pas très très intéressant. Donc j'y ai intégré mon projet à moi de phrases d'inspiration graphiste que j'avais mis sur les murs en des stickers décoratifs. Et donc on a fait le premier calendrier de 12 façons de comprendre les designers en fait. Et voilà, donc
tu peux le montrer, Fabien, tu l'as
sous la main.
Parce que tu as deux versions en plus. Tu as une version, moi si tu veux, j'ai la version blanche que je peux montrer là. Et tu as la version, alors la version blanche, c'est ça. On voit ça là, vous voyez, comme c'est super le petit packaging. Je sais pas si on voit bien, mais c'est blanc sur blanc. Je trouve ça super beau avec que de l'emboss. Et après, on enlève et on a tout le calendrier qui est disponible. Et c'est vraiment, alors là comme par hasard je n'arrive pas à l'enlever, oui, bien, ne t'inquiète pas, ma démonstration est presque prête, mais c'est pour ça que je te redonne la main, voilà. Et que tu vas montrer directement le truc.
Je vais vous montrer la toute première édition, donc c'était vraiment le premier calendrier qui était assez simple avec des phrases voilà, d'inspiration, donc j'ai vendu sur mon site, tout ça, ça a bien marché. L'année d'après on en a fait un deuxième qui a marché aussi. La troisième année, donc du coup, je suis parti à Bali, donc là, j'en ai pas fait. Parce que je faisais des lettres en bois avec des artisans locaux, et là, c'est la même façon, en fait. C'était d'aller voir les artisans locaux qui travaillent le bois et qui font des trucs décoratifs qu'on trouve dans tous les magasins de souvenirs dans des pays, et se dire, mais attendez, si on peut peut-être sortir de ça et d'aller voir les artisans. Donc, je voulais faire tout simplement, en fait, moi, ma cible, elle est graphiste, donc j'ai voulu faire un alphabet de lettres d'Helvetica, en fait. Donc, basiquement, en fait, voilà, ce sont des lettres comme ça, avec un bois local. Et puis, en travaillant avec eux, j'ai fait différentes collections. C'était super intéressant parce que j'avais besoin d'avoir un interprète. Donc, je me suis retrouvé assis au milieu de l'atelier à boire du café ultra sucré pour leur dire que je les voulais bien comme ça et que c'était pas une autre typo parce que pour eux, c'était assez... voilà. Donc, je me suis retrouvé avec 2000 lettres et après, il a fallu que je les fasse revenir en France et que je les vende, etc., avec tout ce qui va avec, parce que c'est du bois, donc c'est organique, donc il faut le traiter. Enfin, à chaque fois, je lance un truc et après, je me dis, mais quelle idée. Mais bon, ça j'arrive au bout. Et voilà, et après, j'ai refait le calendrier. Le calendrier, avec le polonais, on a pu travailler ensemble pour des raisons différentes, de différents, on va dire. Et après, j'ai contacté un imprimeur que j'ai trouvé en Espagne, à Saragosse. Là, c'était pareil, un couple qui s'est installé. Et du coup, je suis parti à Saragosse en famille. Pendant les vacances, on visite souvent les studios de Letterpress. Ma fille en a un peu marre. Et du coup, on est parti là-bas. Et pareil, c'était un studio vraiment qui imprimait à la main, un petit artisan. Et donc, ça, c'est l'édition qu'on a fait de 2014. Et puis, voilà. Et
après, celle-là, parce que celle-là, elle est vraiment magnifique. Hein,
je l'ai mis sur le
truc. Ah, vas-y, j'arrive. Vas-y. Ouais, parce que c'est après il faudra parler aussi de Walter Mag, Francis en avait parlé, toi, mais c'est un des voilà. Trucs aussi qui était...
Donc c'est l'édition comme ça, celui-ci, et celui-là en particulier, en plus on a les tranches qui sont peintes d'une couleur différente, donc on a 14 couleurs sur les tranches, etc., donc ça c'était l'édition de luxe. Qui était imprimé sur une machine manuelle en plus. Donc, je ne sais pas si vous imaginez 500 calendriers de 12 pages, donc vous imaginez le nombre de pages qui sont faites et qui sont passées une par une dans la machine à la main. Donc, comme toujours,
juste une petite question, il s'appelle comment l'atelier à Saragosse? Parce que j'en connais un dans le coin, mais.
C'est El Calotipo.
Non, c'est pas celui que je connais.
El Calotipo, et voilà. Et puis après, du coup, l'an dernier, il y a deux ans, j'ai rencontré l'imprimeur en France. Qui, pour la petite histoire, s'est mis au Letterpress après avoir découvert le premier calendrier sur mon blog, donc la boucle était bouclée. Je trouvais ça vraiment. Quand il m'a raconté ça, j'ai halluciné. Il m'a dit, moi, j'étais graphiste web, ça me saoulait. Je voulais revenir au papier. Donc c'est Studio Pression et je lui dis, mais donc je suis allé le rencontrer parce que j'aime bien rencontrer les graphistes et me retrouver avec. C'est passionnant, ça. C'est vraiment la partie intéressante de notre métier. Et en fait, je lui ai dit, mais comment tu as fait pour apprendre le Letterpress? Il me dit, j'ai acheté une machine, je l'ai démontée, je l'ai remontée. Ok, normal. On n'est pas tous égaux. Et donc voilà, c'est un passionné, il s'est passionné pour ça. Et donc maintenant, c'est vraiment un métier. Maintenant, il a 4 machines, il a un atelier de dingue, il va bientôt pouvoir imprimer des posters. Donc on a plein de projets en cours. Et pour cette année, du coup, à chaque fois, on essaye d'augmenter un peu le niveau parce que à chaque fois, je pars place la barre un peu haut. Donc, la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'est là que j'ai commencé à travailler avec d'autres graphistes en disant que le design et moi-même, c'était un peu, un peu toujours pareil. Donc j'ai commencé à faire appel à des graphistes que je connaissais ou qui avaient été publiés sur le blog. Donc l'avantage d'avoir le blog, c'est de contacter quelqu'un en ayant parlé de lui. Ça permet quand même d'avoir une conversation qui est déjà ouverte, parce que les gens sont reconnaissants d'avoir été sur le blog, etc. Donc ça permet d'arriver par le bon sens, on va dire. Donc voilà, puis après je les ai contactés, et puis l'important surtout, c'est de financer ça. Donc à chaque graphiste, je propose évidemment une rémunération qui est minime par rapport au projet. Il faut que tout le monde s'y retrouve, parce que l'impression coûte quand même assez cher, en particulier le papier. C'est des papiers de 700 grammes, c'est des papiers fabriqués en France pour les deux dernières éditions. Voilà. Et pour la première édition qu'on a fait avec Studio Pression, comme c'était l'année de la lumière, en fait, donc on a fait cette version-là que vous ne voyez pas du coup, parce que c'est une encre phosphorescente. Donc voilà, on s'est amusé aussi. Quand je lui ai dit que je voulais faire un calendrier avec une encre phosphorescente, il m'a dit « Ah génial, ça fait super longtemps que je voulais le faire ». Donc ça, c'est la version normale. Et on a fait appel à un designer anglais qui s'appelle Joe White, qui a fait un travail magnifique là-dessus. Et là, on ne va pas éteindre la lumière, mais cette version-là donc brille pendant la nuit, et c'était très drôle à fabriquer, parce que on a éteint le studio, il y avait la machine à letterpress qui brillait dans tous les sens, donc c'était des expériences assez rigolotes. Et cette année, pour la dernière édition, j'ai fait un Kickstarter que j'avais expérimenté sur le magazine Walter, donc le magazine Walter que j'ai lancé cette année aussi. Et le financement participatif marche énormément, parce que au-delà de l'argent qu'on récupère à la fin, ça met vraiment une lumière sur le projet par des gens qui n'ont jamais entendu parler énormément d'Américains. Alors, par contre, Kickstarter est assez particulier, parce qu'à partir du moment où vous lancez Kickstarter, vous êtes inondé d'emails de boîtes qui sont spécialisées dans le financement de Kickstarter et qui vous proposent 40 000 solutions pour avoir des fonds, enfin bref. Et voilà, et donc là, le process est toujours le même. Je contacte les graphistes quelques mois avant. On travaille ensemble je leur propose des phrases. Ils créent leur design à partir de ça. On est OK sur le fait que le financement, que je ne les paye que quand le financement est arrivé au bout. Parce que Kickstarter, une chose à savoir, c'est que quand le Kickstarter se finit, il faut 15 jours encore après pour avoir l'argent. Donc ça veut dire qu'un Kickstarter d'un mois, il faut un mois et demi avant d'avoir l'argent, et il faut, en général, un imprimeur, il a tous les frais avant et tout ça, donc c'est vraiment une gestion de projet globale. Et puis après, il faut les envoyer, parce que du coup, ça part dans à peu près une quarantaine de pays différents. Donc, grâce à l'aura du blog, ça part aux Philippines, à Taïwan, à Hong Kong, à Singapour, voilà. Donc, il y en a très peu qui sont vendus en France, au final. Beaucoup, beaucoup d'Américains, évidemment. Et chaque année, c'est un vrai bonheur, voilà, de mettre en avant de l'artisanat et de se retrouver avec l'imprimeur et de tester des choses. Et pour cette année en particulier, on a essayé
c'est exceptionnel. C'est magnifique.
On a essayé le gaufrage à chaud. Donc là, c'est du bronze à chaud et du noir à chaud. Ce qui est blanc sur le calendrier normal, là, il est en noir. Et on a les côtés qui ne sont pas aussi en doré. Et voilà.
Donc ça, c'est en rupture super de stock de celui-là. Hein.
Oui,
celui-là, t'en as plus sur le site.
Ouais, celui-là, c'est très bien vendu. Il m'en reste 4. Donc celui-là, il s'est très bien vendu. Du coup, le problème, c'est que le normal cette année, du coup, c'est moins bien vendu. Là, je vous donne vraiment tous les détails, parce que du coup, celui-là était tellement, tellement fort, en fait, que le normal, en fait, même s'il est très beau, fait un peu pâle figure à côté.
Là, je te le dis, moi, je l'ai reçu. C'est autre chose, et tout blanc, etc. Moi, je trouve ça, il est vraiment magnifique. Hein. Donc, les amis qui écoutent, il faut absolument aller acheter votre version du calendrier blanc. Hein. C'est obligé pour toi, Fabien.
Mais c'est vraiment un projet passionnant qui m'a amené énormément de choses à côté au niveau des clients aussi, parce que du coup, ça leur montre vraiment ce que c'est que Letterpress et comment on peut jouer avec. Parce que quand vous dites à votre client, on peut faire une carte en Letterpress, il dit, ah bah oui, mais ça coûte 5 fois le prix d'une carte normale. Tu dis, ouais, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de faire du... Voilà, puis c'est un vrai bonheur de sentir l'encre et le papier, d'entendre les machines bouger. Là, quand on a fait la version avec gaufrage à chaud, je savais pas du tout comment ça marchait. Donc, je suis à Disneyland à chaque fois. Donc voilà, on relativise quand on se retrouve à faire des plaquettes ou des logos pour des clients qui sont plus compliqués, on va dire. Voilà. Malgré tout, aujourd'hui, une chose pour finir là-dessus, si, c'est ça reste une occupation parallèle de mon activité de graphiste. Voilà, donc c'est pas avec ça que je mets du pain sur la table. Enfin, je mets pas de pain puisque je mange sans gluten, mais voilà. Après, il y a d'autres projets comme le magazine ou les choses comme ça. Ce sont des projets passionnants à faire où on est totalement investi. Par contre, après, voilà, je ne pourrais pas faire que ça aujourd'hui.
Ouais, c'était la question que je voulais justement poser, c'était combien vous étiez à bosser sur le projet et si c'était rentable, parce que ça doit prendre énormément de temps entre la conception, la gestion des prestataires, l'impression, la logistique qu'il y a derrière et tout ça. Ça doit quand même prendre, tout en sachant que tu as un calendrier par an, plus le magazine Walter qui est sorti en septembre, un truc comme ça, je sais plus.
Ouais, il est sorti en septembre, on est en train de travailler sur le prochain.
Comment tu fais pour gérer ces projets qui sont clairement passionnants d'un point de vue personnel et tout ça, et faire rentrer suffisamment d'argent
J'ai des clients très patients, déjà. Ils sont pas le choix. Si, mais écoute, je vais me faire tuer. Mais non, j'ai la chance d'avoir des clients qui me suivent depuis longtemps, avec qui on travaille depuis longtemps. J'ai des projets vraiment intéressants à l'international. En fait, je fais des identités pour un hôtel à Seattle en ce moment, ou des choses comme ça, ou même des studios. Donc après, c'est des projets, c'est pas des petites choses à chaque fois. Donc c'est des gros projets en parallèle. Donc disons que je jongle entre ces gros projets-là et mes projets perso. Aujourd'hui, le magazine de Sans Gluten me prend énormément de temps, mais parce que ça marche, donc c'est vraiment passionnant aussi à faire, parce que là, on sort complètement du monde du graphiste, du graphisme pour les graphistes, entre guillemets, parce que le calendrier, il a sa cible de graphiste, le magazine Walter, il a sa cible de graphiste, alors que là, avec le magazine de Sans Gluten, on arrive sur une cible qui est complètement différente, qui ne connaît pas les codes de tout ça, donc on arrive avec un beau livre, et les gens disent « Ah, c'est beau ce magazine, qu'est-ce que c'est ?» Et on sort des obligations des magazines de cuisine qui sont obligatoirement moche, donc c'est ça qui est intéressant, c'est travailler à la fois sur un magazine de sans gluten et faire un projet, un projet de graphisme.
Le positionnement doit être différent aussi, parce que je suppose que faire un beau magazine doit coûter quand même plus cher que, ou à la vente, plus cher qu'un magazine classique.
Non, c'est ça qui est terrible en fait, c'est que c'est comme un graphisme en fait, c'est pas parce que c'est plus beau que c'est plus cher, quoi. Tu vois, c'est la fabrication, non, si tu arrives à optimiser le calendrier, oui, cette année il a coûté plus cher parce que la version dorée là, ça coûte je voulais essayer, voilà, quoi. Bon, après la dorure sur tranche, ouais, là c'était ça on l'a. Mais à partir du moment où c'est plus cher, bah, c'est ma marge à moi qui diminue, parce que moi je prends ce qui reste à la fin. Et après, avec des systèmes comme Kickstarter cette année, j'ai réussi du coup à bien le financer dès le début, parce que quand je le prévends sur mon site tout seul, ça se vend petit à petit, etc. Avec un Kickstarter, un objectif, un mois, etc. Les gens sont à fond, ça marche. J'en suis à mon cinquième ou sixième Kickstarter, enfin pas Kickstarter mais crowdfunding, on va dire. J'ai fait Walter sur Ulule, et j'ai fait trois financements participatifs pour le magazine de Sans Gluten. Trois où à chaque fois on a exposé les objectifs, parce que les gens participent, sont impliqués, se prennent au jeu en fait, de se dire ah bah, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, et quand ils y ont arrivé, bah, on continue. C'est l'exemple type du financement participatif du gars qui a financé une salade de patates, je sais pas si vous l'avez vu ça, où le mec il a dit je veux faire une salade de patates à 10$, il s'est retrouvé avec je sais pas combien à la fin. Voilà, c'est participer à la blague en fait, quoi. Là c'était participer à la blague, mais en général les financements participatifs, c'est voilà, j'aime ce projet, j'y crois, et aujourd'hui on a besoin de ça, quoi. On a besoin de ça.
C'est intéressant parce que on a eu des fois cette discussion déjà dans le podcast sur le fait que de dire que bah, faire encore un Kickstarter alors qu'il y en a plein, tout le monde le fait, est-ce qu'au bout d'un moment ça en vient pas à s'essouffler et que les gens ça les passionne moins?
Ben, c'est compliqué. Moi, là, aujourd'hui, je le dis parce que c'est mon actualité complète, sur le Walter, on n'a pas assez de financement pour finir l'impression du numéro 2, parce que il faut réussir à faire le magazine, le vendre, avoir des pubs, faire la distribution, on a trouvé des distributeurs qui proposent des paiements à 210 jours, je ne sais pas si vous imaginez le truc. Donc, c'est des trucs, ok, vous bossez dessus, on vous paye l'année prochaine. Donc voilà, on a des inconnus comme ça qui font qu'aujourd'hui, ouais, il nous manque 5 ou 6 000 euros pour finir l'impression du 2. Donc la grande question, c'est est-ce que je refais un Kickstarter ou pas, parce que les gens vont se lasser. Et à la fois, je me rends compte que les gens qui le connaissent déjà et qui ont déjà financé le premier vont se dire, non, c'est bon, on a déjà donné, ce que je comprends. Par contre, il y a tous les autres qui connaissent pas le projet. Et aujourd'hui, avec Internet, je me rends compte que à chaque fois, j'ai l'impression que les gens en ont entendu parler, et je l'ai vu avec vous quand vous l'avez présenté la première fois.
Tu te rends compte qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas encore...
Voilà, ouais, il y a plein de gens qui ne connaissent pas le projet, et c'est ceux-là en fait, qu'il faut aller chercher. Il y a ceux qu'on fidélise et qui se disent « Ah ben super, il fait encore un projet, on va y aller parce que moi je veux le mien ». Il y a le côté collection du calendrier où il y a les fidèles, quoi. Chaque année, ils se disent, il y en a qui m'écrivent dès juillet en me disant « Alors, il arrive quand ?»« Attendez les gars, on est au mois de juillet, ça va ». Et après, il y a il y a tous ces nouveaux, parce qu'il y a des milliers de gens qu'on n'a pas contactés encore, et on est l'exemple type, quoi. C'est un ami qui m'a parlé de The Walking Web, vous en étiez au 25. Maintenant, je connais, donc je viens le voir à chaque fois. Et ça marche comme ça, quoi.
Et tu as regardé du côté des stockistes pour essayer de... Enfin, c'est la relation avec les distributeurs et tout, parce que...
Ouais, c'est ça, en fait. Les stockistes, en fait, si tu veux, c'est un revendeur qui est en Angleterre et qui, l'avantage, c'est qu'il te prend 1500 numéros d'un coup et tu touches, il te paye 10% à 90 jours et le reste à 210 jours. Mmh. Donc ça fait en fait que tu touches sur tes ventes 300 jours après.
J'avais lu ça j'ai oublié les noms du mec d'Offscreen qui disait que les stockistes c'était vraiment un souci. C'est génial parce que il peut envoyer son livre un peu partout, enfin son magazine un peu partout dans le monde, dans des boutiques indie. Moi, j'en ai même vu à Hambourg dans des boutiques de fringues. Mais le souci, c'est vraiment le paiement, quoi, et que y en a, ils se, enfin, j'avais l'air de dire qu'il y en a quand même qui se barrent avec les magazines, et puis tu vois,
c'est ça, quoi. Et puis surtout, en plus, au-delà du paiement tardif comme ça. Il te paye pas les frais de port. Donc c'est à toi de payer les frais de port pour envoyer les trucs. Et si t'envoies 40 magazines, la marge c'est les frais de port. Enfin, c'est une expérience aussi. Par contre, après, un gros distributeur qui t'en prend 1500 et qui s'occupe de tout ça, c'est un peu comme si tu te payais une pub quoi. Donc on va peut-être pas gagner de l'argent, mais le magazine il est partout. Donc du coup, ça va générer des abonnés, ça va générer de la... Donc voilà, c'est un financement parallèle, entre guillemets, qui est passionnant aussi. Et là, c'est de l'artisanat, parce qu'on crée un projet jusqu'au bout. On va essayer de le vendre, on va essayer de contacter les gens, et voilà. Donc le Walter 2, on va sûrement faire un financement participatif, parce que je ne vois pas d'autres alternatives aujourd'hui, parce que je ne suis pas, par contre, du genre à aller chercher les business angels, les machins, des trucs comme ça. Et par contre, voilà, on va faire une soirée de lancement à Paris, et on va faire des choses... plein de choses, mais c'est vrai qu'il faut avoir des fois c'est génial, mais des fois tu fais j'en ai marre.
Fatigant.
Ouais, est-ce que vous avez des questions?
Moi j'ai une petite question, alors c'est hyper impressionnant ce que tu racontes, Fabien. C'est magnifique et puis c'est tout un savoir-faire. Je voulais savoir, en fait, c'est une question imbriquée. Est-ce que tu as fait du web? Est-ce que tu as déjà fait des projets en pixel, en web, des sites ou des trucs comme ça ou des applis? Et oui ou non? Et après, surtout, quel est ton regard sur ça? Parce que la qualité que tu as atteint dans l'univers de l'impression avec les calendriers, avec les cartes, avec le gaufrage et tous ces trucs-là, est-ce que tu as un regard sur le web en disant « je suis bloqué, on ne peut pas aller aussi loin » ou est-ce que tu dis « c'est un autre langage » enfin, je sais pas, est-ce que tu as un regard sur le monde du web en général, sur la création web?
Moi, je suis ultra dépendant du web parce que mes projets print ne se vendraient pas sur Internet aujourd'hui. C'est pas les calendriers en particulier, il n'y a aucune boutique qui les revend en fait. Ce n'est que les photos et la mise en forme du truc qui les vend aujourd'hui. Moi, j'ai commencé dans une agence de web qui s'appelait Periscope à Clermont-Ferrand, donc qui est une énorme agence de web. Donc j'étais directeur artistique là-bas, donc j'ai une culture web. Par contre, c'est vrai que ça me touche un peu moins que le papier, etc. Mais aujourd'hui, par rapport à mes clients, je fais des sites web, je travaille avec un développeur, je développe des sites, des fois ils s'arrachent les cheveux parce que c'est pas exactement, ça rentre pas dans les cases, mais c'est ce qui me plaît aussi parce qu'aujourd'hui je trouve que tous les sites web sont uniformisés et j'en viens aussi là-dedans parce que c'est tellement plus facile de faire comme ça. Voilà, moi après j'ai un blog ultra dépendant du web. Enfin, je veux dire, tout ça c'est grâce à mon blog et le blog il n'est jamais à la pointe de la technologie, ce qui est un problème. Mais j'ai pas s'il y a quelque chose que je dois laisser un peu de côté, c'est ça, quoi. j'ai pas le temps en fait de voilà de faire un web super optimisé ou quoi que ce soit. Donc là, il faut que je le refasse, mais ça veut dire remettre peut-être 70 000 images en des grandes tailles, parce que quand j'ai commencé sur le il y a 10 ans, les images elles étaient comme ça, et maintenant elles sont, il faut qu'elles fassent 1200 pixels, tu vois, alors qu'il y a 3 ans il fallait qu'elles en fassent 900. Donc moi, ce qui me fatigue un peu dans le web, c'est ce côté ultra demandeur d'évolution tout le temps. Voilà, qui est passionnant aussi, c'est ce qui vous passionne à vous, et j'aime le suivre, mais par contre, moi, je préfère essayer de faire revivre des choses en papier comme ça, ou des objets ponctuels, voilà, il y en a 500 exemplaires, les lettres en bois que j'ai fait à Bali, c'était la même idée, on a fait 2000 lettres, et basta, il n'y en a pas eu plus, s'il n'y en a plus, il n'y en a plus, les gens n'arrêtent pas de demander, et non, il n'y en a plus, ça crée un objet voilà, qui est temporel, qui a une date, qui a quelque chose. C'est vrai que le web, pour ça, c'est pénible, en fait, cette côté, enfin, qui est pénible, non, c'est pas pénible, ça fait partie du web, c'est ça, c'est ce qui fait le web. C'est
pénible,
en fait.
Le web.
Mais, ouais, après, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que finalement, est-ce qu'on n'arrive pas justement à un moment où, comme tu disais, on est tous passionnés, nous, de web, etc., mais de plus en plus, quand je vois le lettering, la place que ça a pris aujourd'hui, ça a repris, en fait, dans la communication même des agences, moi, je reçois de plus en plus de belles choses, justement, qui sont faites un peu comme tes calendriers, etc., d'agences que j'avais plus pendant un moment, parce que tout était full web. Quand je vois aussi l'évolution de JP, de Francis, pardon, qui est maintenant carrément essaie d'en faire quasiment son métier, je trouve qu'on arrive, je trouve que c'est un bon moment là, malgré le fait qu'il y ait une évolution énorme web permanente, qu'on soit toujours dans l'actualité tout le temps, il y a ce retour un peu au papier et cette envie d'aller, pourquoi pas chez l'imprimeur, etc. quoi.
C'est simplement, en fait, le problème du web, et qui restera toujours le problème du web, c'est la dématérialisation, et qu'on n'arrivera jamais, en fait, à avoir avec le web ce qu'on a avec le toucher, avec l'expérience du produit, qui est un calendrier que tu poses sur une table, que tu regardes, et qui est un vinyle que tu vas sortir de sa pochette, machin, mettre sur la platine, et c'est pour ça qu'on a le revival du vinyle aussi, avec, je veux dire, tu vas au Puce maintenant, un album de Bowie, c'est 20 euros, il y a 5 ans, personne n'en voulait. En vinyle, je parle. Mais voilà, parce qu'on est tellement rentré dans le streaming à outrance qu'on se dit, attends, moi, c'est pas comme ça que j'ai écouté ma musique avant, et je veux, je veux me poser avec un disque, avec un magazine. Walter en est l'exemple type, quoi. Dans Walter, j'ai voulu aller plus. Le blog, c'est quelque chose, on poste des choses, il n'y a que des images pratiquement. Et on a besoin de cette actualité tous les jours en se disant, tiens, il y a un nouveau post, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, etc. Walter, c'est un magazine où on se pose avec, il n'y a pas de limite de temps. On parle du Baos et de Walter Gropius du début du siècle et de projets qui ont 10 ans. Et ce qui est difficile dans le web, c'est ce côté actualité. Voilà, le logo Uber est l'exemple type, quoi. C'est sorti il y a 2 jours, on l'a tous vu. Et dans 2 jours, on n'en parlera plus. Parce que voilà, ce sera passé, c'est le nouveau logo Uber. Et dans 3 jours, on va parler du nouveau Facebook. Il y a une nouvelle actualité, on en parle comme des malades pendant une journée et ça s'oublie. Et c'est le côté qui m'est un peu plus difficile.
C'est éphémère un peu d'information.
Éphémère et surtout qui est de plus en plus éphémère. Ça, je veux dire,
Mais on est saoulé un peu aussi par l'information. Enfin, il y a de l'information dans tous les sens. Il faut qu'on apprenne à faire le tri. Ça crée une certaine tension. C'est pas toujours
ça. Ouais, et c'est ça. Et se poser avec un crayon, dessiner des choses, c'est passionnant.
Bon, moi, de l'autre côté, j'achète plein de magazines et j'ai jamais le temps de les lire. Donc, c'est pareil.
Non, je disais, ça rejoint notre épisode qu'on avait fait sur la déconnexion, où on parlait justement de se réunir entre nous, enfin entre designers, et justement de quitter un peu ce truc du web de tous les jours. Donc quelque part, toutes ces choses là qui ramènent au tangible, à la réalité, ça rejoint ça, et c'est bien, je trouve.
Mais il y a juste un point que je voulais mentionner, parce que c'est dans la discussion qu'on a eue hier chez Geoffrey, enfin sur Facebook chez Geoffrey, parce qu'on s'invite un peu dans la vie de Geoffrey, mais sur Facebook. Et en fait, c'est dans son article, Geoffrey parle de la céramique faite via des imprimantes 3D. Et là, moi, je reboucle la boucle, en fait, d'une certaine manière, parce que je trouve ça intéressant que par le numérique, on fait de la céramique avec des imprimantes 3D, alors que finalement, la céramique est un métier manuel et des choses comme ça, et que il y a tout un art derrière, mais qu'on peut quand même arriver via le côté numérique à faire des choses complètement numériques. Maintenant, est-ce que c'est un progrès? Est-ce que c'est, enfin, Je veux dire, c'est un sujet qui prête à discussion. Et dans l'évolution de l'artisanat, ça joue aussi, c'est une évolution. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est différent? On se pose les questions, mais je veux dire, le débat est intéressant, quoi.
Moi, pour finir, je pense pas que ce soit mieux ou moins bien. C'est juste qu'on a, on a tous une expérience différente avec les choses. Et pour l'exemple, pour reprendre sur mon exemple à moi, je ne suis pas imprimeur. Je ne suis pas ébéniste. Je ne sais pas dessiner. J'ai passé mes études de graphisme à me dire que je ne serai jamais graphiste parce que je ne savais pas dessiner. Et tu me mets un crayon dans les mains, c'est une catastrophe. Mais par contre, voilà, j'ai réussi à trouver un moyen, en fait, de faire des calendriers imprimés avec des imprimeurs dont c'est le savoir-faire, à faire des lettres en bois avec des ébénistes dont c'est le savoir-faire, et c'est peut-être ça notre métier, en fait, de trouver le savoir-faire de chacun et de réussir à en faire des choses bien. Moi, j'ai une vision du web qui est la mienne. Si j'arrive à trouver un développeur qui le fait dans ce sens-là et un graphiste qui le fait dans ce sens-là, c'est voilà. Et c'est l'exemple type de ce webcast où on est tous dans nos domaines, on a quelque chose qui nous relie, voilà.
Et pour
l'amour,
moi, c'est
l'amour.
Ouais, c'est très l'amour.
On va terminer vite fait avec Jojo parce que là on arrive à l'heure. Donc
ouais, et Jérém, on a perdu Jérém. Hein. Jérém avait plus de batterie. Hop, éjecté direct de Hangout. Bam. Allez,
moi je vais juste terminer pour dire que en fait, les outils numériques en général, ça permet de faire vivre, voire revivre des métiers oubliés, comme ce dont tu parles, Fabien, et même fondeur de caractère et des trucs comme ça. Heureusement qu'on a des outils numériques pour simplifier ces processus, qu'il y a des artisans qui se créent grâce à la simplification de leur processus. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de dissocier les deux et les deux sont très très mélangés. On peut tout à fait faire de la poterie avec du numérique et faire des sites web avec un crayon presque. Voilà. Donc, c'est juste, faut qu'on se sorte de la tête le fait de séparer ces éléments-là.
Super. Pour terminer, Fabien, est-ce que tu pourrais nous rappeler, on va les mettre sur Twitter et sur Facebook, les URL. Donc le calendrier est toujours en vente, il reste des numéros du Walter numéro 1 ?
Ouais, il reste des numéros du Walter numéro 1, on arrive avec le Walter numéro 2 qui est aux trois quarts terminé au niveau de son contenu.
Il y a un bundle d'ailleurs, pardon, il y a un bundle hein, où tu peux prendre le Walter plus le calendrier, ça c'est ouais. Il est cool.
Et plus le prochain Walter aussi, parce que c'est sûr que là c'est vraiment une économie de l'abonnement, ça c'est important pour un projet comme celui-là. Donc tout est sur mrcup.com, donc mr-cup.com. Donc dedans il y a le shop, il y a mon book, il y a le blog, il y a un peu tout au même endroit. Et il y a aussi un lien vers Walter Magazine qui a son site dédié parce que là aussi on avait besoin d'un site dédié parce que on s'arrache les cheveux, la preuve, par rapport aux frais de port, parce que c'est vraiment une galère en fait quand on fait un magazine à 18€ de devoir payer 22€ pour l'envoyer aux États-Unis, c'est compliqué. Donc il y a toutes ces problématiques là en fait. Donc du coup on a fait un site à part pour que vraiment on focalise que sur Walter Mag parce que je fais beaucoup de choses et c'est vrai que ça embrouille énormément les gens qui ont toujours pas compris ce que je faisais en fait. D'ailleurs moi non plus.
Ok, super. On va s'arrêter là ou est-ce que tu veux nous faire un petit what the fuck Tony avant pour partir?
Je peux. Bah attends, je vais essayer une dernière fois de partager mon écran.
Vas-y, je savais que ça te ferait plaisir.
Et voilà, c'est mon petit bonheur du jour. Je pense que vous l'avez vu passer ce matin. Voilà, le trumpdonald.org avec cette, vous voyez que vous pouvez faire tourner comme ça votre, et il y a les yeux de Trump qui vous regardent et d'un n'importe quel moment, un petit clic et voilà, c'est tout bête, mais c'est le WTF du jour et c'est juste magnifique, quoi. Voilà, je pense que c'était bien de se quitter sur
ce petit moment poétique. Merci à l'équipe, merci à toi Fabien d'être venu. Quand le numéro 2 sortira, on en passera un petit mot sur le podcast.
Ça marche.
Et puis je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a dépassé 2-3 minutes, pas plus.
On est bien.
C'était bien.
On a quand même Donald Trump avec nous parce que comme on voit.
Voilà, on a pu tenir Donald Trump. Ouais, mais chevelure, c'est quelque peu différent. Hein.
Bah, attends, je le vire par contre parce que Donald Trump dans les pilotes, c'est dur.
Ok, donc bonne journée à tous. Et puis,
à bientôt.
Rendez-vous dans une quinzaine de jours.
Avec Kretsan. Avec Kretsan sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ça va être sympa.
On va parler d'Orcel alors.
Ouais, on va parler d'Orcel, ouais.
Ça va être... Bon après-midi à tous, alors, et puis à bientôt pour
un nouvel épisode. Allez, bye-bye. Ciao.